rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire ce qu'on dit.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
Hola, bienvenue sur Radio Canu, si vous nous rejoignez, mais on imagine bien que vous étiez déjà à l'écoute de Radio Canu et de ses bandes continues. Nous sommes ensemble pour une heure d'information avec Laurent à l'autre côté du studio. On est très très loin l'un de l'autre, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Et puis nous allons vous parler de j'ai dit, et puis c'est un drôle de début de phrase, vous allez me dire. Nous allons vous parler ce soir de plein de choses. Nous allons évidemment parler d'Israël et de Palestine ce soir, évidemment, parce que d'abord c'est une rubrique que nous avons fait pendant très longtemps, un petit peu abandonnée ces derniers temps, mais qui nous tient toujours à cœur. Nous irons en Moldavie, puisque la semaine dernière on avait parlé de Transnistrie, c'est l'occasion de parler de la nouvelle présidente. Nous parlons évidemment ce soir, comme beaucoup dans les médias, de police, de milices, de sécurité globale. Et puis, je vous parlerai de capitalisme, de consommation, de tout, voilà. Allons-nous acheter ou pas des choses pour Noël? Et puis, nous aurons aussi une rubrique énergie-environnement, avec du nucléaire dedans, avec Laurent, évidemment, parce que c'est lui qui parle de nucléaire dans cette émission. Juste, moi, je voudrais commencer cette émission en vous disant qu'aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale des toilettes, ça fait marrer plein de gens. Bon, il y a des réactions qui sont assez vraies, c'est qu'il y a une journée mondiale pour tout, à peu près, hein. Et puis il y en a qui servent à rien, des journées, et il y en a d'autres qui sont extrêmement importantes, et celle-là elle l'est, parce qu'évidemment dit comme ça, on se dit que oh, c'est marrant, le pipi et le caca, sauf que bien évidemment c'est une journée importante. Alors elle existe d'une manière internationale depuis 2001, elle est institutionnalisée depuis 2013, puisqu'elle est portée par les Nations Unies depuis cette année-là. C'est un moyen aujourd'hui de rappeler que faire pipi et caca, ça touche à la dignité humaine. Hein. Nous sommes tous et toutes conçus à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on fait pipi et qu'on fait caca, ça rentre et ça sort. Et que quand on peut pas faire pipi et caca dans des bonnes conditions, et ben c'est là où on peut perdre sa dignité. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde, on parle d'un milliard de personnes qui pissent et chient le cul à l'air, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une cabane au fond d'un jardin pour pisser et pour chier. Alors quand on parle de toilettes, on parle évidemment d'accès à l'eau, puisque beaucoup d'endroits, il y a des organisations qui essayent d'installer des toilettes sèches, mais ça veut surtout dire qu'il y a un problème d'accès à l'eau à travers le monde et que les toilettes en sont un des symboles, si on peut le dire. Mais le problème des toilettes, c'est aussi que quand on n'en a pas et qu'on fait ça soit dans un endroit pas adapté, mal adapté, mal conçu ou inexistant, et ben on a des problèmes d'hygiène, d'où des problèmes de maladie. Donc c'est là où aussi il faut qu'il y ait des principes d'assainissement qui soient mis en place dans un certain nombre de pays. Et puis j'ajouterais aussi que le manque de toilettes à travers le monde, ben ça vise aussi les femmes, et particulièrement les femmes, parce qu'elles ont plus de chances d'être agressées quand elles doivent sortir pour aller se mettre dans un endroit qui n'est pas conçu pour ça ou qui est mal conçu, quand on veut faire pipi ou caca. Je dis ça parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, et que dire d'autres mots, soit on les comprend pas, soit pisser et chier, c'est pas très joli. Le pipi et le caca, quand on a une femme, et ben ça peut devenir compliqué d'avoir le derrière à l'air, parce qu'on se fait agresser par les hommes, qu'on voilà, et on en revient à cette affaire de dignité. Et donc ne pas avoir accès aujourd'hui à des toilettes à travers le monde, et ben c'est aussi une discrimination importante. On pense toujours à des pays comme allez, des pays qui vont se trouver en Afrique, par exemple. Alors, on va arrêter de toujours pointer du doigt l'Afrique. On pointe aussi l'Asie. Mais il faut savoir que même dans des pays européens, on a des problématiques d'accès aux toilettes. Alors, il y a évidemment certains pays qui ont des difficultés de développement, mais on pense aussi à tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui vivent dans la rue, hein, à côté de chez vous, en bas, si ça se trouve, qui ont des difficultés à avoir une hygiène de vie facile, et qui ont des difficultés à trouver des toilettes gratuites, propres, un accès à l'eau aussi. Et ça touche beaucoup aussi les femmes. On vous rappelle que quand vous avez vos règles, et ben avoir un accès à des toilettes, ça devient indispensable, à la fois tout simplement pour vous changer, mais aussi pour votre hygiène. Et ça, on est quand même encore dans un pays très patriarcal, et peut-être que si on faisait un chemin pour les femmes, on ferait un chemin pour l'humanité. Voilà.
Oui. C'est à moi de parler d'Israël-Palestine après le pipi et le caca.
Bah,
c'est pas mal. Hein. Je sais pas si je peux enchaîner, quoi.
Sur l'humanité, si ouais, tu vas changer, tu vas parler d'humanité, là aussi.
Ouais, c'est quelqu'un qui est plus proche du pipi que du caca que de l'être humain, tu veux dire. On va parler de Mike Pompeo, justement. Hein. Je crois que ça lui va bien aussi. Alors, tout le monde en a parlé, mais c'est quand même important de le resignaler. Donc, il était en visite aujourd'hui. Et là, il a visité plein de pays. Il est venu en catimini rencontrer Emmanuel Macron. En catimini, c'est pas tant lui qui a voulu être en catimini, hein, c'est je pense le gouvernement français qui assume pas, qui est obligé de le recevoir pour des raisons de diplomatie, mais qui avait pas envie de le voir non plus. Donc là, il se retrouve donc en Israël-Palestine, où il a accueilli à bras ouverts, donc notamment à ce fameux vignoble Psago, qui est dans une colonie. Donc c'est une colonie, on rappelle, c'est une occupation illégale d'un territoire. Ici, nous sommes en Palestine, un pays qui n'existe pas, mais on est bien dans un territoire palestinien. Et il est aussi allé en fin d'après-midi sur le plateau du Golan. Donc on rappelle, le plateau du Golan, c'est un territoire syrien que Israël a annexé et que les États-Unis ont reconnu comme faisant partie d'Israël, alors qu'au niveau du droit international, le plateau est bien à la Syrie. Donc voilà, alors ça confirme en fait ce qu'on a eu pendant 4 ans, c'est-à-dire qu'une administration Trump qui affiche un soutien inégalé à Israël et à son premier ministre, M. Netanyahou, malgré toutes les affaires que Netanyahou a pu avoir, notamment de corruption. On se rappelle de la reconnaissance, du déplacement de l'ambassade d'Israël, des États-Unis en Israël à Jérusalem, de la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale seule de l'État hébreu. Des choses comme ça. Et puis l'appui à la colonisation en Cisjordanie notamment, mais ailleurs aussi dans tout le territoire de façon palestinien, enfin ce qui était le territoire palestinien. Alors on a noté, hein, ces 4 dernières années, la colonisation a continué, mais elle était déjà dynamique avant, hein, faut pas non plus tout mettre sur les épaules de Trump. En fait, Netanyahou, il était là déjà avant Trump, et puis même avant, les politiques ont toujours été plutôt pro-colonisation, ou en tout cas personne n'a remis en cause la colonisation, même du côté des travaillistes, quand les travaillistes pouvaient être au pouvoir. Alors ils ont peut-être gelé, au mieux, on gèle l'occupation illégale, mais jamais on a eu de retour réel. Alors il y a eu quelques petits trucs symboliques, mais ça va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, il y a 450 000 Israéliens qui habitent un territoire qui devrait être palestinien. Bon, alors nous, on s'en fout hein, qui habite à quel endroit. Hein. Nous, on n'a pas d'avis sur. Voilà, on participe pas au nationalisme et on s'en fout. Les gens ont le droit de vivre où ils veulent. Le problème, c'est que là-bas, on peut pas raisonner comme ça. Avoir des propos libertaires, c'est très compliqué. Il faut d'abord que tout le monde puisse vivre là où ils ont envie. Et les Palestiniens, on les vire de chez eux. Hein. Donc c'est plutôt de ça dont il est question dans ce Moyen-Orient ravagé par des années de colonisation israélienne. Suite à la victoire de 67, vous êtes tous au courant. Il y a 2,8 millions de Palestiniens qui survivent tant bien que mal en Cisjordanie. Donc voilà. Alors, il faut savoir aussi que Pompeo, il faisait partie des gens qui ont dit, il y a quelques années, que pour lui, les colonies n'étaient pas illégales. Alors justement, il y a le truc symbolique dans ce vignoble Psago. Alors, ils ont fait une cuvée au nom de Pompeo, parce qu'il avait annoncé que c'était, les colonies étaient légales. On rappelle que, ce vignoble israélien Psago, qui est donc entre Jérusalem et Ramallah, le boss de la colonie avait été attaqué par des militants défendant la cause palestinienne en Europe pour que ces vins, et ces produits, donc ces vins, ne soient pas vendus sous l'étiquette israélienne, puisque ce n'est pas des vins produits en Israël. Donc la France avait dit oui. Il y avait eu un recours d'Israël et l'Union européenne avait validé, donc c'était la Cour européenne de justice, avait validé le fait que le produit doit être estampillé colonie israélienne et pas Israël. Ça fait une nette différence et que le consommateur soit au courant de ce qu'il achète. Enfin, le consommateur qui achète du vin israélien alors que la France est un des gros producteurs de vin, c'est un petit peu con, même rien que déjà d'un point de vue écologique. Bon, d'un point de vue politique, ça rajoute une couche hein, quelque part. Mais donc, suite à ça, le responsable du vignoble l'avait pas aimé, du coup Pompeo l'avait soutenu, et là c'est voilà l'occasion de remettre une couche, puisque Pompeo estime que une colonie, maintenant qu'elles existent, elles sont donc légales du point de vue international, ce qui n'est pas le cas bien évidemment du point de vue international, mais c'est ce que voudrait Pompeo et l'administration Trump. Et puis il est allé loin, il a fait des déclarations, de toute façon ils sont en phase de passer le pouvoir, hein, enfin d'être obligé de passer le pouvoir, donc il peut aller dans la provoque jusqu'au bout. Il est allé dire que la campagne de boycott BDS, la boycott des investissements sanction, qui dit qu'il faut boycotter les produits issus des colonisations, des colonies illégales, pour lui cette campagne est antisémite. Dès qu'on touche à Israël, c'est forcément de l'antisémitisme, hein, parce que pour lui, comme pour Netanyahou, l'idéal, c'est un Israël 100% juif, déjà. Or, c'est déjà oublié qu'en Israël, il y a 20% d'Arabes israéliens, alors c'est le terme officiel, même si c'est un peu un terme pourri. La campagne ne condamne pas les produits israéliens directement. Elle se garde bien de faire ça. Elle condamne les produits issus des colonies israélienne. Et ça, a priori, Pompeo le sait, mais ne veut pas le reconnaître. Donc voilà, c'est toujours facile de mettre de l'antisémitisme là où il y a une lutte politique contre de la colonisation. Alors toujours sur Israël-Palestine, du coup, on va redonner quelques petites infos. Donc, des nouveaux territoires à la colonisation dans la partie est de Jérusalem ont été ouverts. Hein, c'est l'autorité domaniale israélienne qui l'a annoncé. 1200 nouveaux logements dans la colonie de Givat Hamatos. Alors Jérusalem-Est, hein, c'est la partie dite arabe de Jérusalem. Et c'est la partie que voudraient garder donc les Palestiniens, quelle que soit leur confession religieuse. Et malheureusement, voilà, la colonisation, elle est au sein même de Jérusalem dans cette partie est. Alors c'est Peace Now qui donne pas mal d'infos. C'est une structure israélienne qui lutte pour la paix, qui avait été montée hein, par d'anciens militaires qui avaient pris conscience qu'il y avait un souci et qu'on pouvait pas continuer comme le faisaient les gouvernements. Alors c'est il y a longtemps hein, que ça s'est fondé Peace Now, mais la lutte continue malheureusement. Et donc eux ils disent bah là ça va très très loin ces nouveaux logements. Ça coupe quasiment Bethléem et le sud de la Cisjordanie. de Jérusalem-Est. Donc ça sépare les Palestiniens en deux. Alors c'est ce qu'on, il y a déjà, on rappelle un énorme mur, il y a déjà plein de problématiques de séparation, ça en rajoute une. Puis sinon, c'est pas des extrémistes d'extrême gauche, hein, c'est des gens qui veulent juste la paix. Côte à côte, mais même eux déjà ils sont super mal perçus par l'État israélien, par Netanyahou et par Pompeo. Donc voilà, alors ils ont expliqué, c'est Brian Reeves, un des porte-parole de Pisano, qui a expliqué qu'en fait en lançant ces appels d'offres, enfin c'est le fait qu'il y ait 1200 nouveaux logements, ça lance des appels d'offres, la construction va pouvoir démarrer au moins sur, déjà sur les plans, etc. Et le but c'est de mettre ça, d'avancer avant que Biden soit investi pour qu'après voilà, ça puisse plus être mis en cause, parce qu'il faut savoir qu'Israël ne sait pas comment va se comporter Biden, même si on n'a pas beaucoup d'espoir. Il ne va pas soutenir la colonisation à tour de bras, il ne demandera pas le retour, mais il va demander au moins un moratoire, vous savez, le truc de bisounours où on laisse la situation pourrir et être pourrie, mais on n'améliore pas les choses. Mais c'est de ça dont a peur quand même Israël. Finalement aujourd'hui, même un moratoire, un arrêt de la colonisation, ça leur fait super peur. Donc ils avancent. D'ailleurs, on avait eu début novembre le ministre israélien des Transports, Meri Regev, qui avait annoncé de son côté la création d'un nouveau réseau de routes en Cisjordanie pour permettre de développer les colonies et de pouvoir développer de nouvelles colonies. Alors quand on développe un réseau de routes, on va voler des terres aux Palestiniens pour faire les routes, et puis on va continuer donc cette colonisation. Il avait expliqué, le ministre des Transports, qu'il y avait une première étape pour 2025, une deuxième en 2035 et une troisième en 2045. On se demande si en 2045 il restera un bout de Cisjordanie palestinienne, à l'allure où ça va. Et puis la dernière info sur Israël-Palestine, c'est un truc assez incroyable. Alors du coup, c'est les politiques de gauche israéliennes qui sont montées au créneau sur l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. Donc c'est quelque chose, voilà, un bâtiment mémoriel, hein, avec des expos pour ne pas oublier ce qui s'est passé, la tentative d'extermination par les nazis des juifs d'Europe, et il faut changer le responsable, le directeur. Donc, il y a une proposition qui a été faite pour que ça soit Efi Etam qui devienne le nouveau directeur, qui prenne la tête de l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. Yad Vashem. Alors, le truc, c'est qu'il fait polémique, ce petit gars, parce que c'est un militant d'extrême droite. Alors c'est quand même une assez mauvaise idée de mettre un militant d'extrême droite. Du coup, il y a eu des articles dans la presse, notamment la presse de gauche. Il y a de la presse de gauche, hein, en Israël, une presse qui est d'ailleurs plutôt de qualité, à Haaretz notamment. Et donc voilà, il y a eu aussi une grosse pétition de 220 chercheurs, historiens et personnalités politiques, qui demandent à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui dirige ce mémorial de la Shoah, parce que ce personnage est malvenu. Alors faut se rappeler, hein, il était ministre et député, c'est un ancien gradé de l'armée. Un des premiers à apporter la kippa pendant qu'il était gradé de l'armée. Ça se faisait pas. Il était membre du Parti National Religieux, donc un parti d'extrême droite religieux. Il a eu moult déclarations racistes et anti-arabes tout au long de sa carrière politique quand il était ministre et député. Donc voilà, il y a un vrai problème de nommer ce personnage-là à la tête de Yad Vashem, qui est déjà pas un lieu super ouvert, hein, quand on visite. C'est très très centré sur la Shoah, c'est-à-dire on enlève tout le contour historique de la Shoah, donc la tentative d'extermination des Juifs d'Europe, en laissant entendre quasiment qu'il y avait que les Juifs qui étaient pourchassés par les nazis, même si c'était les plus visés. Il y a un tout petit passage de mémoire sur les Tziganes, peut-être, parce qu'on rappelle, hein, les nazis ont essayé de tuer tous les homosexuels, les Tziganes, les opposants politiques, et à plus grande échelle encore, les Juifs. Du coup, c'est presque à la limite révisionniste, ce truc. Alors certes, la Shoah ne concerne normalement que les Juifs, mais voilà, c'est hors contexte des fois, et ça mériterait ce mémorial, comme tous les mémorials, d'être mis en valeur avec un vrai discours historique et une analyse politique, pour éviter que ça se reproduise déjà, et qu'Israël se mettent à avoir les mêmes comportements avec des... Voilà, puisqu'on a des exemples assez impressionnants de cartes d'identité avec la religion, tout ça. Des choses qui peuvent exister en Israël. Hein. Alors, sur la religion, sur d'où vous êtes, etc. L'origine ethnique, notamment. Donc voilà, c'est les petits enjeux qu'il y a en ce moment en Israël.
Alors, on va partir en Moldavie. La semaine dernière, je faisais un petit écart en petits mots, comme ça, sur la Transnistrie. Territoire reconnu par pas grand monde, coincé entre la Moldavie et la Russie. Enfin, soutenu en tout cas par l'Ukraine, là-bas, et soutenu par la Russie.
Et par la Russie, ouais.
Territoire...
Un territoire qui ne tiendrait pas économiquement sans l'aide russe.
C'est séparatiste. Très particulier, hein. Vous avez déjà un territoire militarisé dans lequel les Moldaves ont été chassés. Je vais poursuivre après. Hein. On a une impression de vintage avec des statues de Lénine. C'est pour ça que je dis vintage, parce que c'est très curieux quand même de se retrouver dans cet environnement. Donc c'est un territoire qui a fait sécession en 1992 avec un conflit local. Des populations qui ont fui hein, le territoire pour rester sur le territoire moldave. Et la Moldavie est un pays dont on ne parle pas beaucoup. Pourtant, on a beaucoup de Moldaves ici en France, mais c'est vrai que les gens préfèrent parler des Roumains et des Roumaines. C'est plus facile, là, quand on est raciste, de dire « Ah, les sales Roumaines !» Alors, sachez qu'effectivement...
Ou même, les Roms, par exemple, qui viennent pas mal de Moldavie, tout se mélange, en fait, pour les Européens. C'est un peu triste.
Donc, la Moldavie, c'est un territoire qui a fait partie de la Bessarabie. Donc, on a eu le royaume de la Roumanie, une russification au XIXe siècle, hein, et puis l'ère soviétique, et c'est un en 1991. La Moldavie, c'est loin de chez nous. Pourtant, comme je le disais, beaucoup de Moldaves sont en France, mais beaucoup de Moldaves sont partout, en fait. Une grosse partie de la population s'est barrée. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Est partie travailler ailleurs, histoire de survivre. C'est un petit pays roumanophone, russophone, et qui est traversé aussi par ses différentes cultures et ses différentes langues. Coincé, hein, qui a été un des greniers de l'Union soviétique, et qui est toujours un pays très agricole, qui n'a plus d'industrie, et qui est surtout un pays extrêmement corrompu, puisque depuis 1991, c'est un pays qui n'a pas réussi à créer une démocratie correcte, basée en tout cas sur une transparence de ses élus, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une femme, déjà.
Au pouvoir,
présidente de la Moldavie. La Moldavie, il faut savoir aussi que c'est toujours. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau électoral. D'abord parce qu'il y a la Russie. Et encore une fois, aujourd'hui, on a pu voir que M. Poutine s'était largement impliqué dans cette élection pour soutenir le président sortant Igor Dodon. Président pro-russe. Alors, ça fait un peu guerre froide, hein, mais en même temps, on a aujourd'hui une présidente élue, Maya Sandu. Déclarée pro-européenne. Ouais. Donc, Est-Ouest, hein, tout ça, ça rappelle quand même des choses un peu bizarres. Donc, on a un pays qui est traversé, je vous ai toujours, par des grandes discussions au moment des périodes électorales, parce qu'il y a aussi des nationalistes roumains en Moldavie, qui sont moldaves, mais qui aimeraient rejoindre ce fameux royaume de Roumanie dont je vous parlais tout à l'heure, cette grande Roumanie qui a été sur ce territoire.
Parce qu'ils parlent quand même majoritairement roumain.
Et voilà. Et donc, du coup, tout ça se mélange et fait qu'on a un pays quand même qui est extrêmement intéressant, qui est très riche, hein, en termes de culture. Et...
Pas en termes d'argent.
Non, en termes de culture, si vous voulez finir ma phrase. Par contre, effectivement, en termes d'argent, on a un gros souci. C'est que c'est un pays qui a été fortement soutenu par l'argent de l'Union européenne à un moment pour développer des infrastructures, des routes, mais comme l'Albanie, par exemple. Hein, c'est des pays qui ont été soutenus et il y a eu un gros scandale de disparition d'argent il y a quelques années. Où est donc parti l'argent donné par l'Union européenne? L'idée, c'était d'arriver quand même à développer quelque chose en Moldavie pour que les gens arrivent à rester. Hein. Y a un peu, évidemment, de rejet hein, de la migration moldave, mais il y a aussi l'idée, peut-être, je l'espère bien au fond de tout ça, d'aider aussi les Moldaves à développer leur pays en y restant et en y travaillant. Il faut savoir qu'il y a des villages entiers où il n'y a plus que les vieux et les gamins, hein, parce que tout le monde s'est barré. Je sais, c'est un pays agricole.
Tout le monde bosse à l'étranger.
Au-delà de la capitale, même la capitale, c'est vite fait, hein, le tout. Hein. Donc c'est comme un tout petit pays. Donc on a cette présidente élue avec 57,75% des suffrages, ce qui est pas mal. On a Vladimir Poutine qui n'est pas très content. On a Igor Dodon qui a tenté de nous faire un Trump en disant on m'a volé l'élection, mais qui, en quelques heures, s'est ravisé et a admis tout à fait sa défaite et surtout l'élection de cette nouvelle présidente. Alors c'est une femme, elle est... déjà c'est une femme, hein, pardon, mais pas tant que ça... le monde, hein, qui arrive quand même à ce type de pouvoir hein, en termes d'élection. Elle est jeune, elle a 48 ans, comme le dit un truc assez moche que j'ai pu lire sur, je crois que c'est RFI.fr, cette femme de 48 ans, au visage doux mais déterminé, on dit jamais ça des hommes. Ouais, enfin bon, voilà. Elle a décidé de se battre contre la corruption. C'est le cœur de son programme, il faut le dire. Elle a été élue largement... pas largement, mais grâce à cette diaspora qui vit à l'étranger, qui... a priori a été sensible à une partie de ses arguments. D'abord, la lutte contre la corruption, et elle appelle à un moment à changer le pays pour que les Moldaves rentrent chez eux et rentrent chez elles. Et ça, ça a a priori quand même fait pencher la balance de son côté. Bon, reste que quand même, il y a quand même encore beaucoup de gens hein, qui ont voté pour ce président sortant pro-russe. Bon, la difficulté, c'est que elle va pas avoir une assemblée derrière elle. Donc, elle va avoir un problème pour arriver à mettre en place. Elle va pas avoir un parlement derrière elle. Donc, elle va arriver. Ça va être difficile de mettre en place tout ce qu'elle veut faire. Mais ce qu'elle veut, c'est relancer une économie. On lui souhaite bien du bonheur. Maintenant, comme certains peuvent le mettre en avant, elle est pro-européenne, donc elle saura peut-être sensibiliser l'Union européenne à ses desiderata, à une volonté de vouloir développer cette économie. Elle souhaite surtout développer aussi le petit commerce. Hein. On en parle beaucoup de nos petits commerçants en France. Bon, bah, elle, c'est aussi comme ça qu'elle veut développer. Hein. Elle ne veut pas rentrer dans des grandes industrialisations. De toute façon, ils n'ont pas l'argent. C'est un gros problème. Elle veut aussi rendre plus dynamique le transport, la circulation, permettre de redynamiser aussi un pays dans son économie, casser le système judiciaire en place. Elle veut faire une réforme judiciaire très importante parce que ce qui a permis aujourd'hui à des hommes, essentiellement, de conserver le pouvoir, c'est parce qu'ils étaient corrompus et parce qu'il n'y avait aucun système judiciaire qui les a fait tomber. Donc elle veut changer la donne. Est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas. Hein. Vous savez, on a toujours envie que ces gens qui arrivent au pouvoir et qui semblent toujours meilleurs que le précédent ou la précédente changent la donne. On n'est jamais sûr que ça puisse se passer. Elle est quand même aussi libérale. Mais en tout cas, elle veut lutter contre la pauvreté et contre l'immigration. Elle veut faire de l'immigration. Enfin, elle veut ramener les gens vraiment au pays. Et ça, ça a sensibilisé quand même une partie de la population, mais surtout la corruption. Parce que les gens en ont marre, en fait, de s'être fait voler. Parce qu'il n'y a rien. Il faut le dire. Donc, ils se sont fait voler. Et c'est ce qui a maintenu le pays depuis 1991 dans un système pourri. Hein, c'est, je vous le disais, c'est un tout petit pays. Hein, c'est quoi? C'est 3,5 millions d'habitants, un truc comme ça. Donc, c'est un pays dont tout le monde se fiche. Le seul problème... Et c'est pour ça qu'on parle de la Moldavie, c'est qu'il y a une immigration et que ça embête tout le monde. Parce que finalement, on n'aime pas les gens qui viennent nous voler notre travail, hein, si on écoute le Front National ou le RN, comme aujourd'hui. Donc Madame Sandou, elle a 48 ans, je vous l'ai dit, elle a travaillé pour la Banque Mondiale de 1998 à 2005, elle a été à Washington pendant deux ans dans les années 2010, et puis en 2016, elle a fondé son parti, le Parti Action et Solidarité. Elle a été assez... brièvement, hein, Premier ministre en 2019, et la voilà donc elle a circulé, hein, vous voyez, elle a fait des choses hein, aussi, hein. Elle arrive à ce pouvoir, et maintenant, tout le monde l'attend évidemment au tournant, parce qu'on attend d'elle qu'elle soit parfaite, et que c'est pas gagné. Donc moi, je vous invite à lire des choses sur la Moldavie, et des romans, il n'y a pas grand-chose, hein,
ouais.
Qui ont été traduits, hein, c'est dommage. C'est des ouvrages de Vladimir Lorchenkov. Pourquoi je vous invite à les lire? Parce que c'est drôle et que il y en a marre de pleurer sur ces pays, effectivement, où il y a la pauvreté, où il y a l'immigration, et on a toujours quelque chose de moche. Parce que, comme tu le disais, on a des populations roms qui, effectivement, sont venues aussi hein, sur l'Italie. Beaucoup, et puis aussi en France, en Allemagne. Ce sont des populations qui sont discriminées en Moldavie.
Ouais, bah comme dans presque tous les pays. Hein.
Exactement, c'est des gens qui ont évidemment, pour certains et certaines, pas beaucoup d'accès à des toilettes dignes. Ça en fait partie. Et on a, grâce à Vladimir Lorchenkov, une image un peu différente de la Moldavie. Alors, je pourrais vous citer Les Aventures de Séraphin, prophète moldave oublié des dieux, ou aussi Des mille et une façons de quitter la Moldavie.
Celui-là, c'est excellent.
Voilà, où, oui, c'est drôle, c'est comique, ça se moque. Hein, de la Moldavie, mais il est moldave. Hein, il vit dans la capitale avec femme et enfants. Donc voilà, je trouve que c'est bien de soutenir vos libraires en allant donc chercher en clic et réplique ces ouvrages de Vladimir Lotchenkov. Voilà, pays à suivre,
ouais,
à apprécier.
Il y a plein de potentiel touristique, il y a des choses qui peuvent être faites.
Ouais, voilà, ils ont
la mer.
Il y a, c'est surtout que oui, non, mais il y a d'autres choses en fait qui pourraient faire en sorte que ce pays arrive à s'ouvrir effectivement au tourisme et donc à ramener une manne. Par exemple, il y a des caves viticoles qui sont déjà des lieux touristiques pour les Moldaves et qui pourraient devenir, même s'il faut peut-être un tout petit peu améliorer la qualité
du vin.
Tout petit peu, mais il y a pas grand chose, hein. Il y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas, voilà. Et puis c'est un pays de campagne, de randonnée qui pourrait séduire franchement un sacré paquet de gens.
Et puis c'est pas très loin, voilà.
De notre côté là, hein, sur l'ouest.
Alors, je poursuis avec l'actualité du moment. Alors tout le monde en parle partout, donc je vais pas m'étaler non plus. Mais donc le Parlement a commencé à examiner cette fameuse proposition de loi de sécurité globale. Il y a eu pas mal de rassemblements hein, dans des villes en France avec quelques milliers de personnes pour dénoncer les atteintes à la liberté d'informer et de manifester et aussi à la volonté manifeste d'une surveillance globalisée des citoyens et des citoyennes hein, qui est vraiment très très présent dans cette loi et dans les différents amendements. Donc, c'était plutôt sympa qu'il y ait une mobilisation malgré la situation sanitaire. Hein, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut faire une autorisation, tout ça. Ça démontre un peu qu'il y a des gens qui sont quand même mobilisés face à ces reculs majeurs de liberté publique hein, qui sont contenus dans cette loi. Alors, il y a eu beaucoup de mobilisation, non pas sur place, mais de syndicats, d'associations, de collectifs de journalistes, de collectifs de citoyens, de citoyens, de citoyennes, de familles, de collectifs de familles de victimes de violences policières. Et puis, on a eu, bien sûr, le défenseur des droits, la commission consultative des droits de l'homme, ainsi que les rapporteurs spéciaux de l'ONU, qui sont venus mettre leur grain de sel en disant, cette loi, elle est quand même super liberticide et c'est pas digne d'une démocratie. Donc, ce petit succès a été terni quelque part par des exactions de la part des forces de l'ordre, exactement ce qui est dénoncé par les militants et les militantes, les manifestants et les manifestantes, puisqu'on a eu pas mal d'atteintes à la liberté d'informer. Alors c'est marrant, on a l'impression qu'on parle de l'Ouzbékistan là ou du Turkménistan ou de la Russie de Poutine, mais en fait non, c'est bien de la France. Vous savez, le pays qui qualifie du pays des droits de l'homme, c'est pas vrai en fait. Donc cette loi, elle est vraiment liberticide. Alors il y a plein d'affaires. Vous avez le journaliste de France 3, hein, c'était le plus médiatisé parce que les autres médias dominants se sentent proches de ce journaliste qui a une carte de presse et qui s'est fait malmener par la police, malmener, 14 ans de garde à vue, enfin ça rigole pas. Hein. Mais il y a plein d'autres gens, il y a une pigiste, une femme qui bosse à Taranis News, qui a elle aussi été un peu malmenée physiquement, et qui a été ensuite mise en garde à vue. Il y a plein d'autres exemples de journalistes avec ou sans carte de presse. Alors ça, Darmanin et compagnie, là, ils n'ont pas compris que la majorité des gens qui bossent dans la presse n'ont pas de carte de presse, mais ça, il faudrait qu'ils aient un cerveau, et c'est pas gagné. Donc il y a il y a eu pas mal d'attentats, enfin d'atteintes à l'ordre, à la liberté en fait, tout simplement, à la liberté d'informer, à la liberté de manifester lors de ces mobilisations. Alors c'est des choses qu'on connaît depuis des années et des années, mais bon, ça va très très loin. Et les flics se sont tout permis, on a des témoignages à Bayonne ou ailleurs, de flics qui, même avec la carte de presse, jettent les journalistes en disant, de toute façon c'est fini, maintenant j'aurai plus rien le droit de faire. Voilà, il y a un vrai basculement de la part des forces de répression, qui sont censées être gardiennes de la démocratie, mais qui sont gardiennes du fascisme mis en œuvre par la politique d'extrême droite de Darmanin et de Macron, hein, parce que Darmanin, il fait rien sans le consentement de Macron. Donc Darmanin, c'est bien, c'est le bras armé de la politique de Macron, qui se mouille pas trop, qui fait toujours semblant d'être contre l'extrême droite, mais il est bien content d'avoir choisi, volontairement Darmanin, qui met en œuvre une politique d'extrême droite. On l'a vu avec cette loi, mais on l'a vu avec d'autres choses, hein, comme l'expulsion hier manu militari encore d'un camp avec des migrants dedans qui vont se retrouver voilà, à la rue d'ici peu, dans des conditions bien pires. Mais ça, ils en ont rien à faire. L'humanité a disparu des forces de l'ordre et des politiques depuis déjà de nombreuses années. On notera que Darmanin a balancé un tweet tout à l'heure en disant qu'il était prêt à mettre un amendement pour essayer de limiter un petit peu tout ça et de laisser un peu de liberté de la presse. Voilà, c'est triste, on en est là aujourd'hui. Et on a un autre exemple des abus des forces de l'ordre. Il y en a tout le temps, en fait. Hein. Je vais en donner deux. Premier, ici, à Lyon, si vous sortez dans la rue, est-ce que vous avez vu des camions de flics venir contrôler les gens qui sortent du métro, voilà, avec des CRS, tout ça, qui encadrent et qui contrôlent les gens qui sortent du métro? Vous avez votre masque, votre attestation, tout ça. Et bien, en fait, ça, moi, je ne l'ai vu qu'à un seul endroit de Lyon, et je me balade pas mal pour aller bosser, et c'est à la Guillotière. Et à la Guillotière, tous les 2-3 jours, on a ce genre d'exaction, de pression mise sur les habitants et les habitantes de la Guillotière. Alors, le communiqué de la préfecture est génial. Il dit, bah oui, nous avons pu verbaliser des personnes qui n'avaient pas de masque ou des personnes qui n'avaient pas l'attestation. Alors, quand ils en ont 15, c'est le bout du monde. Et on avait 50 ou 70 flics mobilisés. Tout ça pour ça. Pas mal. Hein. Et il y a une vraie volonté de mettre la pression sur certaines parties de la population, notamment les populations pauvres et issues de l'immigration, ce qui est le cas à la Guillotière. Et donc on a un vrai souci de comportement inégalitaire des forces de répression. On se rappelle très bien des pentes de la Croix-Rousse avec des centaines de jeunes qui faisaient la fête sans masque. Il n'y a jamais eu ce déferlement de flicailles pour vérifier si les mesures sanitaires étaient respectées par ces jeunes petits bourgeois. Non. Alors que là, bah oui, les forces de répression y vont parce que c'est pas des jeunes petits bourgeois. Donc voilà, c'est un exemple. Et un deuxième exemple, en Seine-Saint-Denis, on va parler des librairies. Vous savez, il y a des librairies qui résistent en disant nous on continue d'ouvrir, des écrivains qui les soutiennent. Mais il y a des librairies qui respectent la règle, la loi, et qui ouvrent en click and collect. Et bien ça n'empêche pas les forces de l'ordre de venir les emmerder. Alors c'est arrivé à plusieurs librairies, on va en parler de deux, à Bagnolet, la librairie s'appelle De Beaulendemain, c'était le 17 novembre dernier, 18h, une brigade en uniforme de flic arrive, contrôle la librairie et pointe un non-respect des règles relatives à l'organisation du click and collect. Donc ils disent, voilà, la table elle est mal placée, il faudrait mettre telle chose. Or, cette librairie, elle a signé avec le syndicat qui a négocié avec le gouvernement les pratiques sanitaires du click and collect et ils ont accepté ce qu'ils mettent en place. Ce qu'ils mettent en place est adapté au format de leur librairie. Voilà, ils ont été verbalisés. On leur a aussi reproché d'avoir créé un mini-attroupement de 4 personnes, vous imaginez l'horreur, et d'avoir servi 3 clients en même temps. Oui, il y avait une dame avec ses 2 enfants. Alors voilà, on est dans des excès incroyables de la part des forces de répression. Alors, qui s'attaque à des librairies. Alors, il y a Folie d'encre aussi qui a subi ça. Alors, les flics sont allés loin, donc ils ont verbalisé la librairie s'est rebellée et s'est remontée dans la hiérarchie et l'amende a été annulée. Donc l'État reconnaît finalement que l'attitude des flics était pas normale, était illégale. Alors les flics, bien évidemment, quand ils font un truc comme ça, ils sont pas sanctionnés. Par contre, la librairie, elle a été sanctionnée. Heureusement, là, la sanction pour cette librairie a été enlevée. Mais on a une vraie attitude fascisante, hein, des forces de répression. C'est très impressionnant sur les exemples de ces deux librairies. Parce que ces deux librairies, elles vendent pas des armes, elles vendent pas de la drogue. Enfin, voilà, c'est pas ça. Elles vendent des livres. Alors vous me direz, peut-être que c'est ce qui est plus dangereux pour les gens qui sont pas de notre bord politique, c'est la lecture, c'est que les autres lisent. Alors eux, ils ont peut-être jamais lu un livre, je dirais pas quel livre ils lisent sinon, mais parce que ça va m'énerver. Mais voilà, on a une vraie attitude négative de répression permanente, même dans des trucs aussi incroyables qu'attaquer essayer d'empêcher une librairie de vendre des livres en click and collect alors que c'est autorisé par la loi. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est beau ce monde moderne. Le monde d'avant, le monde d'après, tout ça, c'est tout mélangé, c'est tout pareil. C'est à toi.
Oui, juste, je vais être juste te contredire, mais c'est parce que le temps que ça arrive à mon cerveau, ce que tu avais dit, tu avais déjà poursuivi. La Moldavie, il n'y a pas la mer. Hein. Je pense que c'est parce que tu pensais à l'Albanie. Tu as très fortement envie de partir en vacances. Et donc à la mer, je l'entends bien. Oui, c'était Moldavie, juste pour ne pas confondre. Je te rappelle qu'en fait, il y a la mer Noire en dessous. Il y a Odessa, hein, qui n'est pas très très loin finalement, quand on regarde sur une carte de la Moldavie. Et si vous allez sur une carte numérique, hein, c'est-à-dire un truc que vous pouvez grossir avec vos doigts, pas un truc, une image JPEG, hein, PNG ou ce que vous voulez. Je veux vraiment pas dire sur quoi il faut aller regarder la carte. Vous allez vous apercevoir qu'il y a une minuscule bande dans le sud, à un endroit où il y a un bras de la mer Noire et non, manque de bol, ils n'ont pas réussi à y avoir accès. Vous savez, c'est toujours l'accès.
C'est compliqué l'accès à la mer, ouais.
Toujours. Et voilà, la Moldavie, ils ont réussi aussi à perdre ça.
C'est vrai, j'avais oublié.
Voilà, c'est juste pour vous dire. Il faut rectifier un petit peu. Un peu de géographie, c'était pas mal. Alors, on va parler de consommation si vous voulez bien. D'abord, vous êtes tous et toutes au courant. Vous allez donc pouvoir acheter dès demain un arbre mort. Il y en a 6 millions chaque année qui sont vendus en France, les arbres morts. Par contre, pour la décoration qui va dessus, il paraît que vous devez aller sur Amazon. Bon, il paraît que vous en avez plein vos placards, vous avez des cochonneries comme ça. Mais bon, ça nous fait bien marrer quand même parce que.
On n'achète pas d'arbres morts.
Nous, on n'achète pas d'arbres morts, mais vous avez peut-être un arbre plastique hein, qui ressemble à un arbre mort. Non, mais de l'arbre plastique, pardon. Le plastique, c'est pas parce que c'est plastique que c'est mal, encore une fois. Le plastique, si tu gardes ton arbre.
50 ans, ça va.
Voilà. Mais même 10 ans, 20 ans.
Non, 50.
Bon, voilà, vous avez compris, Laurent est intransigeant sur le plastique et sur le sapin. Évidemment. On a des producteurs en France qui étaient très inquiets de ne pouvoir nous fourguer leurs arbres morts. Je vais dire ça tout le temps maintenant, je vous préviens. Et puis, il y a tous ceux qui vendent hein, aussi, qui font ça qu'une fois dans l'année, qui dont c'est un filon sur les parkings des supermarchés, par exemple, qui commençaient à se faire beaucoup de soucis. Et puis, on va pouvoir permettre dès demain donc aux fleuristes, non pas d'ouvrir la boutique, mais d'ouvrir un espace pour vendre du sapin. Voilà, bon, ça nous fait une belle jambe. Alors, j'ai plein de conneries, hein, je suis désolée, mais je vais en enquiller deux,
trois. Donc, t'as fait une connerie sur les arbres morts vendus
voilà,
pour
j'en ai d'autres,
fêtes religieuses.
Donc, il paraît que on mange aussi beaucoup de fromage ces derniers temps, et que vous savez, aujourd'hui, en France, il y a un gros débat, qui a priori est clos, c'est de savoir si on pouvait manger de la fondue.
Oui, est-ce que c'est sanitairement
correct ou pas?
Ouais, je crois que oui, ça a été démontré que c'était bon.
Ouais, alors je veux dire, c'est un vrai débat hein, quand même hein, ouais, en Suisse pour savoir si la fondue était acceptable en temps de coronavirus et de Covid.
On prend alors, tous quand même le pain dans le même truc. Hein.
Oui, l'organisation.
Enfin, c'est chauffé tellement chaud, je pense.
Ouais, mais alors, déjà, il y a cette réponse-là, c'est chaud. D'autres avaient amené plusieurs solutions hein, de cuillères, de fourchettes, une avec laquelle tu manges, une avec laquelle tu piques. Et puis, il y a l'organisation Switzerland Cheese Marketing qui a répondu qu'il n'y avait pas de risque de contamination. Voilà, en tout cas que c'était assez improbable. Donc ça a fait vraiment débat, ça a amené les scientifiques et les industriels à se positionner. Et il faut savoir que la fondue, c'est quelque chose qui se mange beaucoup en Suisse. Alors toutes les régions hein, ont leur fondue et leur spécialité à la fondue. Et les gens vont beaucoup au restaurant. Et donc là, il y a une explosion de la fondue préparée. Puisque les gens sont un peu coincés chez eux, hein, puisque la Suisse a été rattrapée hein, par la Covid. Et puis alors en France, on mange aussi beaucoup de fromage et du fromage fondu, et là c'est la raclette. On a donc appris qu'il y avait une explosion des ventes d'appareils à raclette, c'est-à-dire que on est rentré dans l'hiver brutalement et
pourtant il fait pas froid quand même.
Et les gens sont bien bouffés de la raclette. Il paraît que même en termes de fromage, il y a des enquêtes sur tout hein, quand même, je vous le jure. Donc c'est le secteur du fromage à raclette qui fait savoir que ils ont réussi à vendre autant de fromage qu'habituellement en n'étant pas ouvert. Dans certains, enfin, de la même manière, disons que en ayant plus de difficultés. Alors, les fromagers ont tout à fait le droit d'ouvrir, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le même accès. Hein, on dit que les gens consomment un peu moins de certaines choses. Et ben, pourtant, le fromage à raclette, c'est très bien vendu. Alors la difficulté, évidemment, pour les producteurs de fromage à raclette, c'est la restauration, qui est un pourvoyeur hein, de raclette, gros.
Ah bon, beaucoup plus. Il y a des restaurants à raclette.
Et ben oui, parce qu'il y a les stations de ski, mon ami. Oui. Tu ne vas pas au ski, ça se voit. Tu vas qu'à la plage.
Ah ouais.
Et donc, c'est et là, et donc là, il y a quelque chose qui s'est perdu. Alors, j'espère que nous tous allons manger beaucoup de raclette.
Pour compenser les stations de ski.
Ben, je sais pas. Alors, vous pouvez la manger végétarienne. Hein, par Laurent, lui, il aimait des petits champignons avec sa raclette. Donc voilà. Mais ce qui est incroyable quand même, c'est la vente d'appareils, alors que c'est ce qu'on appelle un marché mûr, c'est-à-dire que normalement tout le monde a un appareil à raclette.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc voilà, le Covid emmène quand même des choses très particulières. Alors, haute consommation.
T'as des blagues encore comme
ouais, ça ? Ouais, j'en ai encore une, puis après ça devient sérieux. Il y a eu un rappel en octobre, hein, je l'ai raté celui-là, de bonbons multicolores en forme de pénis. C'est la marque Superfun Penis Candy Machine qui fait un rappel, puisqu'il y aurait un petit problème de colorant interdit. Donc si vous avez acheté pour rigoler...
Ah mais il y a des bonbons en forme de pénis.
Ah ouais, Halloween, il y a des bonbons en forme d'à peu près tout. Des bonbons en forme de pénis, sachez que vous devez les ramener au magasin. Et il ne faut pas les manger. Plus sérieusement sinon, je vous avais déjà parlé des salariés de Carambar, cette usine qui va être déplacée à quelques kilomètres. Donc il y a une usine historique à Marcq-en-Barœul et qui va aller à Bonlu, c'est à quelques kilomètres, hein, c'est pas très très loin, donc on peut pas dire que les gens vont perdre leur travail pour en refusant d'aller à l'autre bout de la France, ou qu'une usine va tout simplement fermer, c'est qu'elle va se déplacer. Alors ça a été racheté en 2018, et c'est pour ça que donc il y a un regroupement des activités sur un site unique. Alors cette usine Carambar, elle est un peu historique quand même, donc on pourrait se dire que tout va bien se passer, puisque finalement il n'y aura qu'un transfert. Sauf que, et là encore ça paraît pas important, mais il faut quand même penser un petit peu aux gens, il va y avoir donc 114 CDI à Marcq-en-Barœul qui vont être déplacés, enfin qui auraient dû être déplacés, et en fait il n'y en a que 105 qui vont être pris, c'est-à-dire qu'il y en a quand même qui restent sur le carreau, ce qui fait que il y a quand même du mouvement. Et puis la grande question, c'est de savoir quelle est la perte de salaire qui va s'ensuivre, parce qu'en fait il y a une question, c'est comment va se passer le transfert ? Est-ce que tu fais juste un petit contrat de travail ou dessus on va te mettre un avenant te disant à partir de lundi tu travailles dans une autre usine, ou est-ce que tu vas avoir un nouveau contrat de travail avec un nouveau patron ? Et c'est ce qui risque de se passer, et donc il risque d'y avoir une perte de salaire derrière, et donc c'est ce qui et voilà.
Les blagues seront moins bonnes.
Et ben ouais, alors surtout qu'en plus en avril là à Carambar ils avaient offert 400 kilos hein, de tablettes de chocolat à l'hôpital de Blois, donc voilà, il y avait quand même eu un peu de l'idée
parce que dans Carambar, le service le plus important c'est le service des blagues, hein, sinon c'est pas drôle.
Et voilà. Donc j'avais ça. Alors sinon, dans les histoires économiques aussi, on a appris que Unilever, alors c'est pas que des cosmétiques, c'est aussi de la bouffe, vise de mettre, enfin de développer 1 milliard d'euros dans les produits vegan, hein, après la raclette avec du lait, vous aurez de la raclette avec du fromage sans lait.
Je vais vomir.
Oui, bah, tu mets bien toi des petits champignons à la place
de la viande.
De la viande, hein, ouais. Du cochon.
Et c'est plus de la raclette après, enfin, voilà.
C'est un truc fondu.
Voilà. Voilà.
L'outil en lui-même ne change pas. Tu auras toujours un machin fondu dans ton poêlon. Hein.
Oui, de toute façon, Unilever, en tant qu'industriel, il est bien content du développement de la mode des véganes, puisque les véganes sont des produits forcément ultra transformés, puisque naturellement,
c'est ça.
Du fromage, ça se fait très facilement. Hein. C'est du lait qui caille, tout ça. Là. Forcément, pour faire un équivalent sans lait, c'est très très compliqué. Ça demande un process industriel. Et on bascule dans des produits ultra transformés.
Donc l'idée, c'est quand même d'avoir des alternatives végétales, parce que c'est à la mode, et puis que finalement la viande,
c'est un truc
qui coûte cher aussi, hein. Donc si t'arrives à trouver une alternative moins chère pour faire un produit que les gens achètent jamais, c'est tout bénef, hein. En 2018, Unilever a déjà racheté The Vegetarian Butcher, a aussi développé des mayonnaises donc sans les œufs, a sorti des glaces Magnum sans crème et lait, du Ben & Jerry, hein, ça aussi vegan. Donc on sent que c'est un filon, hein, qui est en train de se développer dans l'industrie. C'est là où, comme tu le disais, le produit ultra transformé ça craint, et que manger vegan c'est bien, manger des produits ultra transformés c'est moins bien, surtout quand c'est visé par des multinationales qui continuent à s'enrichir parce qu'on bouffe du caca. Je vais parler un petit peu d'Amazon maintenant. Non, on va parler d'abord du CBD. Alors, vous avez peut-être entendu parler.
Ah, ça y est, c'est légal.
Alors, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégal aujourd'hui l'interdiction par la France du commerce de cannabidiol.
Donc, juger illégal une interdiction, ça rend légal le produit.
Oui, mais je tiens à préciser la manière dont les choses se font. Alors, ça n'a pas d'effet psychotrope.
Non, pas du tout.
Et instance a décidé que, et
ça,
a déclaré que il n'y a pas d'effet psychotrope et il n'y a pas d'effet nocif sur la santé humaine En tout cas, c'est ce qu'on en sait pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Pour l'effet psychotrope, je pense qu'il y en a qui se sont tellement mis de ça dans la tronche qu'ils savent que pff, au bout de 12 jours, il s'est toujours rien passé. Par contre, ce qui est vanté par ceux et celles qui vendent ces produits, c'est une sensation de bien-être, du plaisir à la consommation. Et c'est vrai qu'en France, un certain nombre de magasins ont fleuri, dans les zones urbaines en particulier, et certains et certaines se sont retrouvés en difficulté. D'abord, certains ont voulu se lancer dans le produit et n'ont pas pu ouvrir de commerce parce que quand ils voulaient louer des locaux, on leur a dit non, c'est illégal, c'est pas bien, on refuse de le faire. Donc les gens se sont retrouvés bloqués. D'autres se sont vus visiter par des uniformes qui se demandaient bien ce qu'ils pouvaient faire. D'autres ont eu des difficultés, se sont retrouvés dans la justice. Donc au moins ça va permettre de stopper la machine judiciaire et la répression sur un produit qui est au niveau de l'Union européenne pas un problème, et donc la France va devoir faire marche arrière sur tout ça, et puis ça va certainement développer toute une industrie, là aussi, sur l'utilisation du chanvre, que ce soit avec les graines, les fibres, tout ce qui va pouvoir amener dans du cosmétique. Alors il y a des choses qui se fument, d'ailleurs dans les vapoteuses électroniques, là. Il y a des choses qui se sont développées, on a tout un commerce qui va pouvoir apparaître là-dessus, plus tranquillement que ce que c'était avant, et puis ça prouve aussi que la France, elle est quand même coincée sur ces questions.
Non, mais c'est incroyable, parce que c'est un produit qui est non psychotrope, et la France fait tout pour l'interdire comme si c'était une drogue. C'est un truc incroyable quand même. Alors c'est qu'une partie, bien évidemment, du cannabis, enfin du chanvre, mais ça démontre le côté réactionnaire de la politique française sur les drogues en général, et alors là, du coup, sur un truc qui n'est même pas une drogue.
Allez, un petit mot pour vous dire que sur Amazon, il y a quand même des réactions, évidemment, de gens qui appellent donc à ce boycott de Amazon. On rappelle qu'Amazon, c'est aussi une plateforme. Donc, il y a des tas de gens qui vendent, des petits commerçants, des petits micro-entreprises qui vendent leurs petites affaires sur Amazon et qui commencent à dire pardon, coucou, moi je suis là, m'oubliez pas parce que j'aimerais bien vendre aussi mes petites affaires à Noël. Donc, les autres leur répondent, ouais, mais tu travailles avec une saloperie multinationale qui ne veut pas payer ses impôts, qui écologiquement fait du caca, là aussi, et puis surtout qui maltraite ses salariés. Mais à côté de ça, on a aussi des salariés qui commencent à réagir en disant pardon, mais vous ne nous avez pas demandé notre avis. Et c'est bien le problème de toutes ces attaques de multinationales, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être qu'il faudrait qu'au fond de nous tous et toutes, on ait un petit et une petite syndicaliste qui se cache pour se demander ce que pensent les salariés de ces multinationales qu'on accuse et qu'on attaque, et l'Amazon. On a raison d'attaquer Amazon.
On est coincé après, hein. Si jamais on pense qu'aux salariés à chaque fois que tu attaques un...
Non,
un
mais ça ne s'agit pas de penser que. Il s'agit peut-être de leur demander leur avis et de penser et demander ce qu'ils en pensent. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais en même temps, il y a aujourd'hui des gens qui te racontent qu'ils se font agresser parce qu'ils ont un t-shirt Amazon quand ils sortent du boulot. Je veux dire, c'est débile. Il y a un moment... c'est peut-être pas la situation. Enfin, il y a quand même pire que de travailler chez Amazon. Je veux dire, quand tu travailles pour un marchand d'armes, excuse-moi quand même.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, je veux dire, c'est quand même des gens.
Peut-être des meilleures conditions de travail, mais ton truc, il va tuer les gens au bout.
Voilà, ce qui n'est pas le cas à Amazon. Pour moi, c'est aussi une démonstration, c'est qu'on s'est attaqué au grand truc, Amazon, mais on s'attaque, comme on le disait la semaine dernière, pas aux autres qui sont tout autour et qui traitent peut-être pas mieux les salariés, qui ont aussi des pratiques écologiques moyennes, mais on sait qu'Amazon, après, jette les invendus.
Non, mais ils ne sont pas défendables,
en fait. Ils ne sont pas défendables.
Ouais, c'est ça. Mais l'attaque, elle est un petit peu facile. Quoi.
Mais voilà. Alors donc, on a appris que Carrefour, Leclerc et les autres voulaient bien laisser tomber leur Black Friday qui doit avoir lieu la semaine prochaine, le 27, pour que ça soit repoussé. Mais il y a plusieurs conditions, que tout leur rayon puisse être réouvert et qu'Amazon joue le jeu et que surtout toutes les plateformes en ligne jouent le jeu.
Ouais, mais ça peut pas arriver, ça.
Alors, je ne sais pas, nous allons voir d'ici la semaine prochaine à quel point notre gouvernement est capable de faire pression sur un certain nombre d'acteurs économiques en France. Bon, est-ce que ça va pour autant sauver le petit commerce? Bon, nous, on n'a toujours pas compris tout à fait ce que les gens voulaient dire des fois par petit commerce. Parce qu'entre commerce de proximité, petit commerce, il y a des grandes différences. Et puis, il y a des gens sur Amazon aussi, je vais terminer là-dessus, sur Amazon, qui habitent... Parce que c'est un discours très urbain de dire, moi, je m'en fous, j'irai dans ma librairie à moi. Mais il y a des zones où on a tellement bien fait les choses que tout ce que vous avez, c'est un centre commercial ou un Carrefour, justement, dans lequel il y a un centre commercial avec un Carrefour dedans. Vous avez à l'intérieur des boutiques dans lesquelles vous allez retrouver des marques qui se trouvent n'importe où en France et dans le monde et que vous trouvez très facilement en ligne. Pourquoi aller acheter dans ton centre commercial avec ta bagnole alors qu'on n'arrête pas de te dire que ta bagnole elle pue et elle pollue, tout ce que tu peux acheter avec deux clics sur Internet, et en particulier sur Amazon, mais pas que. Donc il y a cette question-là, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a plus de commerce de proximité, et je ne parle même pas de petits commerces, il n'y a plus de commerce de proximité, et donc les gens, bah, ils allaient au supermarché acheter leurs livres, bah oui, et c'est comme ça la vie, et puis sinon, bah, ils allaient simplement consommer dans ces galeries marchandes, il y a plus grand chose.
Non mais, voilà. Ouais. Non, mais on parle des livres, mais si tu consommes autre chose que des livres, de la musique par exemple, y a, la majorité des villes n'ont plus de disquaires du tout. Ah donc, en fait, la situation elle est devenue comme ça parce que les gens ont abandonné l'achat de musique, j'imagine, mais privé d'Amazon, c'est aussi privé d'une partie de la culture, d'une partie de la population qui est loin
ouais,
de
ce
qui existe.
Alors, on peut ne pas acheter sur Amazon quand on a besoin d'acheter en ligne, mais
ouais,
après...
Ça, on peut acheter sur d'autres, ça je suis d'accord,
voilà.
Mais c'est quand même très problématique. Quoi, le...
Mais la question elle est plus compliquée parce qu'on doit remettre en cause notre système aujourd'hui.
C'est vachement plus global qu'une entreprise.
Voilà. Et puis je vais terminer avec une autre bêtise, comme ça je te laisse la parole. Ça, c'est pas acheté sur Amazon, mais c'est une vente aux enchères organisée par Ozenat. Alors, le prix de cette chose était au début entre 8000 et 10000 euros, c'était l'estimation de la maison de vente aux enchères. Finalement, cette petite chose a atteint 43 750 euros, un objet inestimable, inestimé pour l'histoire de la France en particulier. Je ne sais pas qui a acheté cette chose. Alors, autrichienne qui a perdu sa tête. C'est donc un soulier de Marie-Antoinette qui a été vendu pour 43 750 euros. Soulier qui a traversé l'histoire, qui aurait été a priori conservé par une femme de chambre, transmis à la descendance, soigneusement emballé, pour arriver jusqu'à nous et pour que des amateurs de Marie-Antoinette et des têtes coupées puissent se faire plaisir en s'offrant un petit soulier blanc de soie. Magnifique, magnifique, comme quoi il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui s'emmerdent aussi, qui achètent donc des souliers de Marie-Antoinette. Voilà, c'est donc Madame Campan, la première femme de chambre de la reine, qui avait a priori récupéré cette chose, et puis qui s'est transmise à travers les âges, voilà.
Ouais, ça valait le coup, ça. Alors, je parle très brièvement d'énergie et environnement, avec deux petites informations. Ouais. La première concerne Engie et la Belgique. Alors, j'en ai parlé plusieurs fois de Engie et de la Belgique, puisque si vous vous rappelez, j'ai donné l'info il y a plusieurs fois peut-être, que Engie, il y a toujours eu des bruits qui couraient, qu'ils voulaient se débarrasser de leur centrale nucléaire. Parce qu'ils ont 5 ou 6 centrales nucléaires en Belgique, hein, parce qu'ils avaient racheté Electrabel. Et ils se retrouvent avec ces trucs has-been qu'est le nucléaire, et qui les intéresse pas tant que ça, surtout qu'ils essayent de verdir un peu leur image. Donc ils étaient embêtés. On en était là, et puis de toute façon, chaque fois que les bruits ont couru, personne ne veut acheter des centrales nucléaires aujourd'hui en Europe et dans le monde, quasiment. Hein, à part les gros États qui sont, pour certains, nucléophiles. Sinon, aucune boîte privée n'achète une centrale nucléaire, parce qu'il y a pas, c'est pas le truc pour l'instant qui a un bel avenir. Et puis voilà, on avait oublié. Et là, un nouveau gouvernement belge, et puis il parle de sortir du nucléaire à moyen terme. Et Engie a réagi, puisque mardi, devant les représentants du personnel, ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter tous les investissements liés à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires qu'ils possèdent, donc sous le nom d'Electrabel. Donc ça a calmé tout le monde un petit peu. Engie explique, hein, bah nous on a eu des discussions très constructives avec le gouvernement. Ils veulent aller jusqu'au bout de l'accord qui a été signé, donc sur une sortie un peu du nucléaire. Et ben donc on va y aller. Alors en fait eux ce qu'ils disent, ils sont entre deux. Ils disent en fait on n'a pas de perspective à long terme. Dans l'accord il n'y a pas de sortie brute et définitive, mais il n'y a pas de truc qui dit vous avez encore 10 ans devant vous, vous pouvez investir pour les 10 prochaines années. Or une entreprise, une multinationale comme ça, elle a besoin de savoir un petit peu dans un outil qui coûte très très cher si ça vaut le coup de réinvestir des milliards dedans parce qu'on a encore 10 ans d'utilisation, ou si on a 3 ans d'utilisation et ça vaut pas le coup. Et vraisemblablement, suite à cette incertitude, Engie dit stop, on arrête les frais, ça vaut pas le coup de prendre le risque, de toute façon c'est en déclin, et on annonce d'abord au syndicat, et puis après du coup c'est sorti dans la presse à tout le monde, qu'on arrête d'investir dans la maintenance pour améliorer, pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Alors les syndicats ont réagi, il va peut-être y avoir une grève, parce qu'il y a une perte d'emploi possible. On rappelle que d'abord ça va pas se faire tout de suite, après le débat, démantèlement, ça va demander une dizaine d'années avec autant d'emplois, et que si c'est remplacé par les énergies renouvelables, le renouvelable en proportion a besoin de plus d'emplois que le nucléaire, qui est une énergie très concentrée. Donc il y a des potentiels, mais ils s'inquiètent aussi surtout de la reconversion des personnels, à juste titre. Du coup, voilà, il y a des mobilisations qui vont avoir lieu au niveau syndical et salarial, enfin des salariés, sur ce truc-là. Mais c'est symboliquement important. Alors, ça a fait très plaisir à Tine van der Straeten, qui est la ministre belge de l'énergie, qui a porté un petit peu cet accord au sein de la coalition qui est actuellement au pouvoir depuis pas longtemps en Belgique. C'est compliqué, la Belgique, ils sont capables de rester 10 ans sans gouvernement quasiment. Donc là, il y a une coalition et ils ont porté cette idée de transition énergétique. Et voilà, ça se concrétise quelque part par une action d'une entreprise privée. Et puis, dernière petite info de ce Canu Info, une décision peut-être historique. Donc c'est le Conseil d'État, vous savez, c'est la plus haute juridiction administrative française, qui a donné 3 mois à l'État français pour prouver que ses actions permettent effectivement d'atteindre les objectifs climatiques. Donc c'est la première fois que le Conseil d'État se prononce sur le respect des engagements de la France et des politiques de la France sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors pour la petite histoire, c'est la commune littorale de Grand-Synthe qui est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, notamment avec les montées des eaux et les tempêtes, qui a saisi la juridiction en demandant il faut faire quelque chose. La France s'est engagée et pour l'instant on est loin des engagements. Alors ils sont soutenus par 4 ONG dont Greenpeace et quelques autres. Alors le Conseil d'État à relever les chiffres, c'est-à-dire la France est engagée à réduire de 40% ses gaz à effet de serre d'ici 2030, et que pour l'instant, on est plutôt à la rue, voire à la bourre. Hein. Donc, ils vont étudier les choses et ils vont se prononcer. Alors, si jamais ils se prononcent, ils vont demander, ils vont mettre la pression sur l'État en disant, bah non, vous êtes engagé, vous avez signé, maintenant, il faut mettre des vraies politiques en place. Et là, on va se marrer si j'arrive, hein, parce que le gouvernement sera obligé, finalement, par le Conseil d'État, de mettre en œuvre les politiques qu'ils ont signées. À savoir que ces accords qu'ils ont signés, pour eux, c'est des trucs super théoriques, très loin dans le temps. Hein, et quand ils ont signé ça, ils voulaient pas de changement en fait. C'était juste pour endormir les populations et pour calmer le jeu. Sauf que 2030, ça approche, c'est dans 10 ans, et que finalement ils sont confrontés à une réalité, c'est qu'il faut vraiment à un moment agir sur les gaz à effet de serre et l'émission des gaz à effet de serre avec les conséquences du dérèglement climatique. Donc c'est voilà, on verra dans quelques mois ce qui va se passer. Il reste 30 secondes, oui.
On aurait juste pu dire qu'on a bien rigolé avec la boulette de RFI qui a publié une centaine de nécrologies de gens tout à fait vivants sur son site internet et sur son compte Twitter. Ce qui est très très drôle dans l'affaire, c'est que ça a été repris parce que tout est automatique par des sites comme Yahoo Actualité, vous savez, des trucs automatiques, et Google. ce qui fait qu'on a aujourd'hui une résonance de la bêtise d'un média. Ça se répand très très vite. C'était très chouette parce que ça montre à quel point on a des repreneurs de l'information. Ouais.
Alors que c'était une bêtise, c'était une erreur informatique. Mais les conséquences sont assez drôles.
C'était marrant.
Voilà. Et Bernard Tapie, donc, qui est toujours vivant. Ouais. C'est la 3e fois qu'il est annoncé mort. Je ne sais pas s'il est encore vivant, il est entre deux, lui.
Bah écoute, pour l'instant, il est toujours vivant. Nous allons rester respectueux, si tu veux bien.
Pardon, de Bernard Tapie ?
Pas des gens qui sont invisibles.
Parce que derrière le tapis, c'est plus dur quand même.
Voilà. On vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Ouais. vous êtes sûrement très heureux ce soir d'être avec vous, comme vous avez pu le comprendre. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine.
C'est bien, CDB, ça nous détend.
N'importe quoi. Donc, on vous laisse avec la suite de Radio Canu. Quand il n'y a pas d'émission, il y a des bandes continues, c'est-à-dire qu'il y a de la musique et c'est vachement bien. Et sinon, il y a des émissions, on se débrouille toujours pour diffuser quoi qu'il arrive. Ciao, ciao.
Voilà, il est bientôt 20h sur la pendule la plus rebelle des radios.